Je voudrais ce matin vous inviter à un voyage dans le temps, un voyage qui n'est pas très agréable, vous allez voir, puisqu'on va se retrouver dans une cellule froide, une prison. Je vous invite à vous imaginer dans ce contexte-là. Vous entrez dans cette cellule et vous trouvez ce petit bout de papier et vous commencez à lire. Vous qui lirez cette lettre, je me présente. Joseph, appelé aussi par mes copains Joe l'Embrouille. Je suis issu des quartiers défavorisés de Jérusalem. Alors je ne suis pas né dans la rue, mais presque. Mon père nous a abandonnés alors que j'avais 3 ans, et ma mère s'est débrouillée comme elle a pu, avec nous autres, 6 enfants, au milieu d'une cité sensible, comme on dit, de la banlieue de Jérusalem. Nous étions chouchoutés par notre mère. Mais voilà, l'ambiance des quartiers, l'argent facile, nous ont happés très vite. C'est vrai, après tout, quand tu vois dans les papyrus publicitaires, ça donne envie, des choses incroyables. Des sandales Mycare, des superbes tuniques douces et banana. Oui, mais voilà, notre mère. Avec ses petits revenus, ne pouvait pas nous payer toutes ces choses. Alors je me suis laissé entraîner par les amis, par la cupidité. J'ai glissé, comme on dit. Je suis devenu une petite frappe, un lascar de Jérusalem. Alors avec un ou deux amis, j'ai commencé par des petits larcins, chippés sur les étalages des marchands. Puis, c'est vrai, quand tu commences, tu peux plus t'arrêter. Il fallait passer à plus gros. Nous nous sommes mis à détrousser les chalands de leurs belles bourses bien pleines de pièces d'argent. Et puis, la spirale continuait de tourner autour de moi, m'entraînant encore vers des coups plus gros. Alors, on s'est mis à monter un grand coup, une attaque d'une banque la plus riche de Jérusalem, le Crédit Mutuel Jétro. Et cela au char bélier. Et puis là, malheureusement, tout a basculé. Nous avons été pris la main dans le sac, arrêtés par la garde romaine. Tribunal, condamnation, casse-prison sans toucher les 20 000 pièces d'argent. Et c'est à ce moment-là, dans cette prison froide, que le remords est né. Je repensais à ma mère, mon père, ma famille, toutes ces valeurs qu'ils ont tenté de m'inculquer, ce Dieu qu'ils servaient si fidèlement, comment pourrais-je me faire pardonner? Comment pourrais-je encore les regarder dans les yeux? Surtout ma mère, celle qui a tant donné. Qui voudra encore de moi? Et c'est à ce moment-là, toi qui liras ce message, à ce moment-là que j'ai rencontré les zélés et leurs belles promesses de rédemption. J'ai alors écouté leur voix douce amère qui me promettait tant. Une vie autre, une autre façon d'être juste. Le paradis, quoi. Ces zélés, ou plutôt fêlés, devrais-je dire maintenant, sont arrivés à me convaincre que la solution à tous mes problèmes était de me débarrasser de l'oppresseur romain. Une façon de me racheter serait de l'éliminer, cet oppresseur romain. Alors ils m'ont rempli la tête de toutes ces inepties, en m'assurant que si j'arrivais à libérer Jérusalem et toute la terre promise, alors le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob me serait reconnaissant, parce que j'ai fait sa volonté, qu'il me pardonnerait tous mes péchés et que je serais juste. Et j'y ai cru. Alors, à ma sortie, j'ai rejoint un groupe d'activistes. Nous avons mis sur pied un projet de coup d'État qui consistait à tuer un chef romain pour déclencher la zizanie et une révolte, une guerre civile. Tout était prévu par notre chef, le grand Barabbas. Homme charismatique, vraiment très classe, Barabbas. Alors nous étions tous prêts, cachés, armés jusqu'aux dents. Déterminé pour la liberté, zélé pour Dieu. une patrouille romaine approche. Et voilà que nous sautons sur cette patrouille avec nos armes. Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est que juste derrière, il y avait encore une patrouille bien plus grande. Et Barabbas a juste eu le temps d'asséner un coup de couteau et d'assassiner un soldat romain. Et puis ensuite, nous nous sommes fait attraper, attacher. Et me voilà, toi qui me lis, dans cette cellule froide, seul. Que me reste-t-il maintenant ? Je suis dans ce couloir froid de la mort, où la faucheuse m'attend. Plus de retour en arrière possible, plus de pardon possible. Le sang coulera, mon sang coulera, pour que la justice soit apaisée. Plus de pardon possible. Oh oui, il y avait bien ce type dont j'avais entendu parler, ce Jésus, un homme qui se disait venu de la part de Dieu pour pardonner les péchés. Il faisait grand bruit avec ses paroles ciselées et ses miracles prodigieux. Il promettait le pardon divin, même au pire des hommes. Ah, si je pouvais, si j'avais pu le rencontrer, celui dont on parle tant. Mais il est maintenant trop tard. Ce qui m'attend, c'est la mort. La roue de la destinée s'est arrêtée pour moi. Je ne pourrais même pas rencontrer ce type. Ah, ça y est, j'entends les cliquetis des soldats romains, de plus en plus proches, de plus en plus intenses. Cette fois, c'est sûr, c'est pour moi. Puisse Dieu me pardonner. On conduisait en même temps deux autres des malfaiteurs qu'on allait exécuter avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision, en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, celui qu'il a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Il venait lui présenter du vin aigre, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi écrit au-dessus cette inscription, « Cet homme est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant, « Hé, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le rabroua en disant, « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà la sixième heure environ. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil avait disparu et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. Jusqu'ici notre lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, que ta parole nous sanctifie ce matin, qu'elle nous édifie, nous corrige et nous instruise. Amen. Quelle voie de rédemption lorsqu'on a commis le pire. Quelle voie de rédemption. Qui peut nous sauver ou que peut nous sauver ? Cette question m'est venue à l'esprit en écoutant les médias autour des attentats. Et les médias faisaient souvent le lien entre fratrie, née dans les quartiers, délinquance, et puis glissade petit à petit vers le terrorisme, comme seul moyen de rédemption. Cette réflexion a trotté dans ma tête. Est-elle juste ? Pas juste ? Et puis, en méditant, réfléchissant, m'est venu ce texte, du bon larron, comme on dit. Celui qui connaît le Christ de façon in extremis. Et je crois que ce texte peut nous apporter quelques clés de réponse à cette question. Quelle voie de rédemption lorsque l'on a commis le pire ? Vous avez remarqué que l'environnement de Jésus est caractérisé par une chose, les moqueries. On se moque de Jésus, on l'insulte, on l'injurie, et tout le monde le fait. Les chefs religieux, alors c'est normal, ils sont à l'initiative de ce complot. Les chefs romains, les soldats romains, c'est normal, ce sont le bras armé de ce complot. Mais ce criminel qui se moque de Jésus, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quelle ironie ! C'est une ironie incroyable. Et en vérité, il y a beaucoup d'ironie dans ce texte pour nous montrer l'amour et la grâce de Dieu. D'abord, la première ironie de cette histoire concerne les rôles de chacun. Le juste, le seul juste, est celui qui fait l'objet des moqueries, des injustes. Le seul juste se fait moquer par les injustes. Il faut imaginer la chose. Celui qui pourrait tranquillement être au ciel, confortablement, en train de rire, de se moquer de nous, petites fourmis, en train parfois de se battre pour un bout de terre qui ne nous appartient pas, en train de se battre pour une différence de couleur de peau, il pourrait bien rire et rester là, sur son nuage, à nous regarder tranquillement, comme des petites fourmis en train de se débattre. Celui-là, celui-là même, est celui qui a accepté de s'abaisser, de s'humilier, d'aller sur la croix et d'entendre ses moqueries sans rien dire. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Et il y a également de l'ironie dans la demande de ce premier malfaiteur. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Or, justement, pour que Jésus puisse le sauver, il ne faut pas que Jésus se sauve. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne doit pas se sauver lui-même, car s'il arrête là sa mission, s'il appelle des milliers d'anges pour le libérer et le ramener auprès du Père, alors ce « sauve-nous » de ce criminel ne pourra jamais être exaucé. Jésus a choisi de ne pas se sauver lui-même pour nous sauver, chacune et chacun d'entre nous. Le monde qui est décrit là semble tourner à l'envers. La grâce fait tourner les choses, renverse les choses qui semblent illogiques, logiques. Le logique devient illogique, le raisonnable est irraisonnable. Quel Dieu pourrait se laisser cracher dessus, injurié par ces personnes qui sont là, ces créatures. C'est un message incroyable que l'Évangile, qu'il faut parfois se réapproprier de façon différente, sous un angle différent, pour s'émerveiller, émerveiller de cette grâce, de cet amour de Dieu. Imaginez un peu, toute proportion gardée, un voleur vient d'être condamné. Il est dans le couloir, qui le mène à la prison, et un homme l'arrête, ou une femme. C'est pas n'importe quel homme, ni n'importe quelle femme, c'est sa victime. Et cette victime vient à sa rencontre, le regarde droit dans les yeux, et lui dit « Mon ami, si tu le souhaites, je viens de prendre sur moi le poids de ta condamnation. Si tu le veux, cette marche, ta marche vers la prison, peut s'arrêter. Je prends le relais. Ou plutôt, j'ai pris le relais. Tu peux être libéré. Voilà ton acte de libération. Prends-le. Tu trouveras aussi les clés d'un appartement que j'ai acheté pour toi. Ton contrat de travail pour un nouveau job que je t'ai trouvé. Alors, que vas-tu faire ? Vas-tu dire oui ? Alors bien sûr, il y a juste une chose que je te demande. Une chose. Change de vie. Je ne veux plus jamais te revoir dans le couloir de cette prison. Fiction ou réalité que cette histoire ? C'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui seule peut libérer du mal. Mais c'est quand même déroutant, cette grâce, cet amour, perturbant. Et ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous connaissez ce passage des Misérables. Ce moment où Jean Valjean a chopé les couverts d'un évêque qu'il avait hébergé, nourri gentiment. Il a pris la fuite et puis il est attrapé par les gendarmes. Les gendarmes le ramènent devant cet évêque. Et écoutez ce que dit cet évêque. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. » Alors c'est du français d'époque. Hein. « Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi qui sont en argent. » Comme le reste, dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Combien d'euros il faudrait convertir? Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec ces couverts? Devant cette réaction, Valjean est décontenancé. Les gendarmes sont invités à le libérer. Écoutez, la suite est grandiose. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-en. Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les deux chandeliers, machinalement, d'un air un peu égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle est fermée, colloquée. » Jour et nuit. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez jamais que vous m'avez prié, vous m'avez promis d'employer cet argent et de devenir un honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé ses paroles en les prononçant avec solennité. Et il continua, « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition. Et je la donne à Dieu. » Je la donne à Dieu. Une rencontre entre un malfrat récidiviste et un évêque. Une parole qui pourrait être celle que Jésus aurait pu adresser même à ce premier malfaiteur. Tu n'appartiens plus au mal, mais au bien. La Bible l'exprime par ce verset, Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales. Acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant à la croix. Voici ce que Jésus est en train de faire sur la croix. Il est en train d'offrir à ce premier criminel qui se moque de lui la possibilité de changer de vie. Alors c'est vrai, il est près de la mort, me direz-vous. Mais la vie ne s'arrête pas à la mort. Mais ce premier larron ne comprend pas. Il se laisse contaminer par l'ambiance de moquerie. Le deuxième, quant à lui, va réagir assez farouchement, le reprendre, en lui disant « Mais t'as rien compris, mon bonhomme. Tu es en train de te moquer de celui que Dieu a envoyé, le juste souffrant dont parle Ésaïe. » Et quel contraste. Ce second malfaiteur reconnaît bien humblement ses torts. « Pour nous, c'est justice, dit-il. Nous recevons ce que nos actes, ce qu'ont mérité nos actes. » Premier point, première petite pierre sur la voie de la rédemption, reconnaître ses torts. Il ne rejette pas la faute sur la justice, sur la société, sur son environnement, mais il reconnaît ses torts. Il détourne son regard du premier larron, de celui qui symbolise ce passé, son passé, rempli de haine, de mal, de violence. Et il tourne maintenant son regard vers Jésus pour lui adresser cette belle parole. Une de mes paroles favorites de la Bible. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Cette grâce insaisissable, aucun mérite, aucun privilège, aucune arrogance, une petite parole. Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Alors Jésus aurait pu répondre « Oui, je me souviendrai de toi, certainement. Mais tu comprends, tu te tournes vers moi alors que tu es face à la mort, c'est un peu tard, c'est un peu facile. » Et que dit Jésus ? Il prend encore le contre-pied. Et il dit d'une façon solennelle, et c'est une des seules fois dans l'évangile de Luc qu'il le dit, « Amen, je te le dis. Amen, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans cet endroit où on peut jouir de cette paix, de cette consolation d'être avec Dieu. » Chers amis, si nous plaçons notre foi, notre confiance en Dieu, il y a cet aujourd'hui fait d'espérance. Même in extremis, il n'est jamais trop tard. Alors revenons à notre question de départ pour conclure. Quelle voie de rédemption lorsque l'on a commis le pire ? Alors vous allez me dire, nous ne sommes pas des criminels. Peut-être. Mais je crois que la Bible n'est pas si tendre que cela à notre égard. Et ce bon larron nous invite à nous regarder avec le regard de Dieu. Un regard juste, Romains 3, 23, vous connaissez, « Car tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Regard de lucidité sur notre état, mais regard fait d'espérance. Je crois aussi qu'il nous invite à nous poser cette question, une question qui me taraude un tout petit peu depuis quelque temps. Où est l'Église dans ces cités ? Où est l'Église ? Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas les solutions, mais c'est une question qui me taraude et qui me fait dire que l'on pourrait être des témoins face à ces larrons. Je crois qu'une autre leçon que nous donne ce larron, c'est un espoir pour nos relations, relations avec Dieu et relations aussi entre nous, avec deux clés très simples à dire, mais ô combien difficiles à faire. La première clé, c'est savoir reconnaître ses torts. Et ça demande beaucoup d'humilité. parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien souvent tendance à jeter la faute sur l'un ou l'autre, la société, l'environnement, que sais-je. Et peut-être, tout à la fin, en me disant peut-être que j'ai eu tort, finalement. Mais le premier point, c'est de reconnaître ses torts. Reconnaître qu'on a mal fait. La seconde clé, c'est de détourner nos regards du premier larron, de la violence, pour les tourner vers Jésus. Demander pardon. Implorer sa grâce. Lui dire, Jésus, souviens-toi de moi. J'ai besoin de toi. Seule la grâce de Dieu peut nous libérer, peut libérer du mal. Frères et sœurs, ce criminel repenti dont nous avons lu l'histoire, le chemin, court chemin de foi, fait de souffrance, de peine, mais aussi d'espérance, est aujourd'hui avec Jésus au paradis. Et il nous souffle qu'il n'est jamais trop tard, il n'est jamais impossible de se tourner vers Jésus. Il n'est jamais trop tard pour que sa grâce nous transforme, nos relations, nos vies. Jamais trop tard pour faire l'appel à son secours et lui dire « Souviens-toi de moi ». Que le Seigneur nous guide sur le chemin qui mène à la vie, qui nous aide à partager aussi autour de nous, même dans les cités, notre foi et cette grâce qui transforme. Amen.